RCF. Les moines cisterciens du XIIIe siècle évoquaient le mystère de la présence du Christ à partir de trois venues. La nativité, ou venue dans la chair, la parousie, ou venue en gloire à la fin des temps, et la venue actuelle dans le cœur du chrétien. Comment pouvons-nous aujourd'hui éprouver et penser cette venue et lui redonner toute sa place dans nos vies? Quel sens donner à la venue et à la présence? Pour répondre à ces questions, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Marie-Aimée Manchon, moniale des Fraternités de Jérusalem. Vous êtes chargée d'enseignement au Collège des Bernardins et à la Faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Sœur Marie-Aimée, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier un petit ouvrage très lumineux, son titre « Maranatha, trois méditations pour l'Avent » aux éditions du Cerf. Et en décembre 2019, si je ne me trompe pas, vous aviez donné trois conférences sur l'Avent à Paris, en l'église Saint-Gervais. Alors, votre livre commence par cette question sur, effectivement, l'Avent, mais qui ouvre une véritable question spirituelle sur l'advenu, l'arrivée, l'avènement. En grec, la parousia, la parousie, la pleine présence. Quel est le sens de ce mot qui vient des Grecs et qui joue un rôle important dans le christianisme?
Ce mot parousie, qui est dérivé de paraimi, donc être auprès d'eux, on le traduit donc par pleine présence, et c'est un mot qui, je trouve, est magnifique. On l'a en fait utilisé pour parler de la venue du Christ en gloire à la fin des temps. Mais c'est vrai qu'on a souvent une image de la fin des temps très apocalyptique dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire catastrophiste, et finalement la venue à la fin du juge qui séparera les bons des méchants. Ce que j'aime dans ce mot de parousie, c'est que on nous dit que c'est pas seulement ça, cette venue en gloire, c'est aussi une venue en présence, c'est aussi une histoire de rencontre en fait. Et que il sera auprès de nous, parce qu'à ce moment-là, enfin, libérés du mal et du péché, nous serons auprès de lui. Et je trouve que, comme le livre de l'Apocalypse termine avec ce désir, justement, ce qui a fait le titre de mon livre, Maranatha, viens Seigneur, ce désir de la parousie, c'est vraiment un désir de rencontre. C'est-à-dire la fin des fins, c'est la rencontre avec le Christ, c'est être auprès d'eux, de Dieu et Dieu auprès de nous, et non pas une vision simplement catastrophiste.
Alors vous anticipez aussi sur cette représentation de la fin. C'est vrai qu'on est peut-être aujourd'hui, généralement, on se représente cette fin effectivement de manière catastrophique parce que nous avons par exemple dans l'environnement des raisons de nous inquiéter véritablement de ce que nous Bien avons sûr. Fait de la terre et de la nature. Et puis aussi cette vision religieuse qui est quand même peut-être un peu floue, peut-être dans certaines tendances peut-être un peu fondamentaliste aujourd'hui, qui est un peu... encore plus peut-être difficile à intégrer dans nos vies. Et vous le dites, nous sommes un peu ankylosés finalement. Et cette période de l'Avent jusqu'à Noël nous laisse un petit peu dans une situation un peu comment dire partagée. C'est-à-dire, vous évoquez Bernanos, la foi, je ne sais pas où elle peut être retirée, mais Bernanos dit, elle subsiste dans ma chair, ma pauvre chair, mais ma chair de baptisée.
Oui, c'est une citation que j'aime beaucoup. Bernanos dit on peut pas perdre la foi. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a et qu'on perd, mais finalement, elle subsiste dans cette chair baptisée, elle subsiste dans la quelque part la matière même de notre humanité, parce que Dieu s'est fait chair et que donc notre humanité est habitée de lui. Et ça, on peut plus l'enlever. Ça, voilà. Et finalement, c'est notre humanité, mais c'est même, comme dit saint Jean Damascène, Dieu s'est fait matière pour notre salut. C'est même la matière du monde. Et c'est pour ça que, bien sûr, on peut avoir des doutes ou une anxiété par rapport à la manière dont on traite le monde aujourd'hui et qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qui va en advenir. Mais la foi nous permet de au moins d'avoir cette espérance, cette certitude même que Dieu est de notre côté, que Dieu non seulement se fait proche, mais il habite notre chair, il habite même d'une certaine manière cette matière qui fait le monde, non pas dans un panthéisme bien sûr, mais dans le fait qu'il l'a assumé en lui et que donc il veut la sauver.
Alors en tant que monial et philosophe, vous redonnez sens, et de manière très très simple aussi dans cet ouvrage, à la fête de Noël et à l'advenue de Dieu à Noël qui se décline en trois niveaux, trois significations donc de l'avènement. Et vous puisez dans les méditations des moines cisterciens que j'évoquais au début de l'émission, des moines cisterciens du Moyen-Âge, Bernard de Clairvaux et un moine moins connu, un disciple, bienheureux Guéric Abedini. Et alors, pourquoi revenir au Moyen-Âge aujourd'hui? C'est un peu l'actualité de ce Moyen-Âge, non, que vous essayez de nous faire comprendre.
Oui, je crois que les... D'abord que le monachisme a beaucoup à dire, et qu'il soit médiéval ou actuel, parce qu'il y a quelque chose de gratuit dans le monachisme qui fait que ces moines n'ont pas cherché à se mettre en valeur en réfléchissant sur le mystère, mais simplement ils ont cherché à contempler. Et on a besoin de cette gratuité, je crois. Et puis, ces moines cisterciens sont proches aussi de nous parce que il y a... je ne sais pas trop comment dire, mais on n'a pas, enfin, tout homme qui cherche le mystère avec sincérité et qui cherche la vérité, c'est pas une question de temps, de temporalité. Enfin, on est contemporain quelque part. Et c'est pour ça aussi que je les ai mis en rapport avec Peggy, Claudel, Bernanos, enfin, pour montrer que c'est la même quête de l'humain. On s'inscrit dans cette même quête de la rencontre de Dieu depuis que Dieu a voulu rencontrer l'homme.
Alors cette quête, si je reviens donc à cette méditation autour de l'Avent, puis de Noël, puisque c'est comme l'événement ici, quelque chose qui est frappant parce que vous évoquez cette pauvreté ou cette nudité hein, dans cette fragilité finalement de cet événement qui quand même est complètement bouleversant, avec la réflexion d'un moine cistercien contemporain, frère Jean-Baptiste Porion. Je cite « Dieu est visible à l'œil nu, il n'y a que la nudité qui manque ». C'est-à-dire presque rien, une sorte de pauvreté, une sorte de... Qu'est-ce que c'est que cette nudité qui
oui,
manque
je pense
qu'est-ce
que...
qui manque c'est étonnant parce que on le pense en termes souvent de plénitude. Vous nous dites attention, ce qui nous invite peut-être à vivre autrement c'est toute cette période-là. Non, c'est la nudité, c'est
oui,
le manque.
Oui, parce que Noël, c'est le Christ qui vient, le Verbe qui vient dans la paille de la crèche, qui vient dans une grotte, dans une pauvre, la pauvreté. Dans la faille d'une grotte. Et oui, cette nudité, c'est peut-être ce qui nous manque pour voir Dieu à l'œil nu, dit frère Jean-Baptiste Porion, c'est cette pauvreté du cœur, cette humilité de l'âme. Le fait que nous sommes trop suffisants, autosuffisants, peut-être, nous pensons même connaître, savoir sur Dieu, et en fait, il vient nous dérouter, il vient dans la faille, il vient justement là où on ne l'attendait pas. Puisque un Dieu qui se fait chair dans une mangeoire, on n'aurait pas pu inventer ça. Voilà. Et cette brèche, c'est ça qui permet son entrée. Son entrée parmi nous et le lien, la relation qu'il va pouvoir établir avec nous, elle passe toujours par une étape de pauvreté.
Il faut être simple pour venir auprès de ceux qu'on aime, c'est ce que vous écrivez, Marie-Aimée Manchon. Nous allons écouter, Messian, un extrait des 20 regards sur l'enfant Jésus.
Dialogue, présenté par Sarah Brunel.
Marie-Aimée Manchon, vous citez Charles Péguy, je trouve cette citation absolument extraordinaire. « À toutes les créatures, il manque quelque chose, et non point seulement de n'être pas créateur. À celles qui sont charnelles, nous le savons, il manque d'être pur, mais à celles qui sont pures, il manque d'être charnelles. » Alors, comment interprétez-vous cette phrase et pourquoi la placer là au cœur de cette période de l'Avent jusqu'à Noël ?
Parce que justement, Dieu a voulu se faire charnel, Dieu a voulu prendre chair, nous rejoindre. Et cette dimension de la chair chez Péguy est fondamentale, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de scission entre la chair et l'esprit, mais l'esprit s'incarne et la chair rayonne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement important de redécouvrir, peut-être parce qu'on est toujours un peu dans l'arrière-fond dualiste entre âme et corps, et la notion de chair, de vécu du corps, de corps qui s'éprouve vivant, nous permet de sortir de ce dualisme qui ne fonctionne pas, en fait, parce que nous ne sommes pas d'un côté une chose et de l'autre et un lien entre les deux, mais nous sommes entièrement corps, esprit, âme, cœur, enfin voilà.
Alors dans votre deuxième méditation sur l'Avent, il viendra dans la gloire. Cette venue du Christ dans la gloire, quel sens lui donner assez simplement ? C'est-à-dire, que signifie dans la gloire ?
C'est une grande question. La gloire de Dieu, sans doute, c'est son Esprit Saint. Mais ce qui m'a intéressé ici de mettre en exergue, c'était qu'il s'agissait d'espérer cette venue en gloire, cette venue inattendue et inespérée. Il y a quelque chose dans le mot gloire, il y a le poids, bien sûr, de la présence de Dieu. Mais c'est aussi une présence inespérée, c'est une présence, encore une fois, qu'on n'attendait pas, qui est plus haute, plus grande, plus belle encore que ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est ça sa gloire. Sa gloire, c'est de nous couronner. Dieu règne en nous, en cherchant à nous couronner. J'aime bien dire ça aussi. Et la parousie, ce sera ce moment-là où Dieu pourra enfin être pleinement lui-même. On pourra faire sa joie et il manifestera sa joie.
Alors, laisser de la place pour la nouveauté, c'est cela, vivre aussi, vous le rappelez. Vivre, c'est aussi attendre, vous le dites, se rendre disponible pour ce qui arrive. Et vivre Noël suppose aussi cette réceptivité à la nouveauté. Quelque chose va se passer, mais attention, c'est peut-être pas la même chose que l'année dernière.
Tout à fait. C'est ça que veut nous faire vivre la liturgie, puisque la liturgie, c'est un cycle, mais c'est en spirale. C'est jamais la même. C'est pas un retour au même, parce qu'on fête tous les ans la même fête. Au contraire, nous changeons d'année en année, et Dieu lui-même va se donner pas au même endroit, pas de la même façon, et à chacun et selon le moment. Donc, oui, je crois que cette disponibilité à l'advenu en cours, parce qu'il vient toujours, voilà, c'est ça, aimer le Seigneur, parce que c'est qu'on attend quelque chose de lui. Voilà. Et je le dis quelque part dans ce livre, aimer vraiment, c'est attendre de l'autre. Et si on n'attend plus rien de Dieu, alors oui, peut-être que l'amour est ensommeillé et que l'Avent est là pour nous rappeler cette veille. De oser attendre ce que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes.
Et cette signification, effectivement, de l'attente qui émerge de ce moment particulier, donc de la fête de Noël pour les chrétiens, c'est aussi, vous le montrez, ça, on ne doit pas le circonscrire à un jour, finalement. C'est aussi peut-être ce qui est ouvert par cet événement, c'est-à-dire être un veilleur. Alors, que signifie veiller ? Quel sens vous lui donnez ?
Alors, justement, cette veille que l'Avent met en exergue, c'est pour après aussi, voilà, c'est pour continuer. C'est cette disponibilité, je crois, à cet advenu. C'est espérer cette proximité de Dieu. C'est apprendre à la voir dans toutes les petites choses quotidiennes. Finalement, c'est très simple. Dieu vient dans le très simple, on l'a dit tout à l'heure, dans la pauvreté de nos vies, dans les obscurités parfois aussi, de nos existences. Et Romano Guardini dit quelque part que la liturgie, c'est apprendre à vivre dans un regard. Et je crois que c'est cela, c'est apprendre ce regard qui permet de déceler l'advenu de Dieu, la proximité de Dieu, sa présence au jour le jour auprès de nous et dans voilà, d'une manière très simple, mais très vraie, très et très profonde aussi.
Alors votre méditation est nourrie par une connaissance de certains grands textes, on pourrait dire des pères de l'Église ou de théologiens. Mais ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que tout cela va enrichir votre propos pour nous ramener aussi à quelque chose de très concret, je trouve. Et quand vous dites, en parlant de cette attente, de cet inespéré, l'attente du ressuscité, on ne le touche que sur la pointe des pieds, écrivait un moine cistercien du Moyen-Âge, on est bien sur terre avec vous. On est bien sur terre avec vous.
Ouais. J'espère, ouais. Parce que je ne crois pas que les méditations éthérées soient ouais. les meilleures.
Ben oui, non, mais c'est ça oui, qui est important à rappeler. Oui.
Et Dieu est bien concret aussi. Donc nous sommes, en tant que chrétiens, d'une religion de l'incarnation. Et parfois nous l'oublions, parfois nous laissons Dieu dans une sphère un peu comme s'il était très haut, au-dessus, qu'il nous regardait d'en haut. Mais non. C'est vraiment, il vient nous rejoindre vraiment dans le concret de l'aujourd'hui. Et c'est aussi ça que veut dire la fête de Noël. Et dans tout ce qui nous peine aujourd'hui, Dieu est présent. Dans tout ce qui nous réjouit, Dieu se réjouit avec nous. Et cette incarnation, elle se continue dans nos vies quotidiennes. En fait, nous avons aussi à être un Noël continué à travers nos vies et notre charité.
Et cette attente, plus particulièrement, c'est l'attente d'une naissance. Et cette naissance, comment dire, elle est indissociable aussi du caractère imprévisible de ce qui va arriver. Et ensuite de la patience qui va accompagner, on va dire, ce cheminement.
Tout à fait. Ça me fait penser au livre d'une philosophe italienne qui s'appelle Carla Canulo et qui a écrit un livre qui s'appelle La vie surprise sur la maternité. Oui, la naissance, en fait en christianisme on va de naissance en naissance vers une naissance qui n'aura plus de fin, si je parodie Grégoire de Nice, de commencement en commencement vers des commencements qui n'auront plus de fin. Mais ce qui est intéressant dans la question de la naissance, c'est que c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui est qui nous déroute, une vie surprise justement qui nous prend à revers, qui pour laquelle nous allons avoir à donner tout ce que nous pouvons sans savoir exactement où nous allons. Et c'est la figure d'Abraham, bien sûr, c'est Marie qui dit oui à l'Annonciation sans savoir exactement où ça l'amène, c'est Joseph qui ne comprend pas tout, mais qui se livre au mystère. Voilà, et de naissance en naissance, cette naissance qui va aller jusqu'à Pâques, qui est la naissance par excellence du Christ ressuscité.
RCF, Sarah Brunel. Marie Aimée Manchon, votre troisième méditation, Il vient dans nos cœurs. Voilà son titre. Alors, vous commencez par une évocation des antiennes grégoriennes, les derniers jours de l'Avent, qui commence par un haut. Alors, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, effectivement, c'est des antiennes qui remontent loin, puisque sans doute déjà au 8e siècle, on chantait ces antiennes qu'on appelle haut, parce qu'elles commencent toutes par haut, et puis après, il y a un titre du Seigneur, haut Adonai, donc ça veut dire Seigneur, haut clé de David, haut rameau de Jessé, etc. Et puis ça finit par haut Emmanuel. Et en fait, ce sont des antiennes qui forment un acrostiche en latin, qui devient, si on prend chaque première lettre du titre, qui devient Hérocras, ça veut dire demain je serai là, je serai. Voilà, et donc c'est un jeu liturgique médiéval, en fait, mais qui reste encore aujourd'hui parce qu'on continue à dire dans la liturgie catholique ces antiennes le soir au Magnificat, dans la liturgie des heures, par exemple dans ma communauté, ou bien pour
la fraternité, donc
les fraternités monastiques de Jérusalem,
oui.
Ou bien ça c'est aussi repris dans le verset alléluiatique, c'est-à-dire au moment de l'alléluia pour les gens qui viennent pas aux vêpres, par exemple. Et à l'époque médiévale, on appelait ces antiennes la cérémonie du soupir.
Ah oui.
Donc c'est vraiment, ça évoque le désir vers le Seigneur. Donc c'est des antiennes qu'on chante entre le 17 décembre et le 24, donc la dernière semaine avant Noël, pour dire, voilà, toute l'aspiration, le désir de l'humanité, du cosmos tout entier, de l'âme vers le Seigneur pour qu'il vienne.
Alors, pour qu'il vienne, je reprends votre formule, c'est un présent, dire de Dieu qu'il est venu et qu'il viendra, cela revient à dire qu'il vient. Et donc, il y a toute une réflexion sur le temps aussi. Il est venu, il vient, il viendra, et vous terminez par le présent.
Oui, parce que l'amour se dit toujours au présent. Si vous dites seulement « je t'ai aimé », ça ne suffit pas. Si vous dites seulement « je t'aimerai plus tard », ça ne suffit pas non plus. Il faut dire « c'est toi que j'aime, maintenant ». Et c'est ça le cadeau du présent, de la présence. Et Dieu, on dit, c'est un éternel présent. L'éternité, en réalité, c'est un éternel présent parce que c'est une présence pleine et pleine d'amour.
Alors nous, nous sommes, bien préoccupés, souvent bien soucieux, bien affairés, surtout dans cette période du mois de décembre où il y a une sorte d'effervescence dans notre société qui est quand même assez étonnante. Mais comment être présent à cela, c'est-à-dire à cette dimension qui n'est pas simplement du passé et pas simplement d'un au-delà inaccessible. Vous évoquez Paul Claudel qui nous donne à écouter cette voix et cette question finalement dans son commentaire d'Isaïe. Qu'est-ce que les hommes ont fait de cette âme ? Voilà ce que dirait Dieu. Qu'est-ce que les hommes ont fait de cette âme que je leur ai donnée ? Ce qu'ils ont fait et ce qu'ils se sont fait. Qu'est-ce que ces hommes ont fait ? Donc effectivement, c'est difficile quand même de
Oui, Claudel parle d'un autre soupir de Dieu, qui n'est pas un soupir d'aspiration, mais qui est un soupir un peu de déception, hein, là, en disant, mais enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce que je leur ai donné? Mais à la fin du texte, on voit bien qu'il dit, mais il n'empêche, voilà, et ils sauront ce que c'est que ma miséricorde, je vais leur redonner souffle, en fait. C'est quelque chose de cet ordre-là qui est sous-entendu. Je vais leur redonner souffle par cette incarnation, par ma proximité, leur redonner le sens du présent. Et on dit dans la liturgie de Noël, hein, « Hodie Christus natus est », c'est aujourd'hui que ça se passe. Et il y a un beau commentaire de Jean-Louis Chrétien qui dit aujourd'hui, cet odillé, c'est qu'on va pouvoir plonger notre aujourd'hui rachitique, un peu anémié, un peu désespéré, dans l'aujourd'hui fort et vigoureux de Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il vient pour nous, et qu'on peut aspirer à ce souffle qu'il veut nous rendre par sa proximité. Voilà.
Oui, ça signifie aussi qu'il vient, mais si on ne vient pas à lui, si on n'est pas prêt à le recevoir, vous dites finalement comme un cadeau non déballé, avec un sapin, imaginons ça, des sentons figés, poussiéreux. Si on ne vient pas à lui, alors comment pourrait-il venir ? Enfin, c'est aussi ce dont on doit prendre conscience.
Bien sûr, ouais. Oui, c'est-à-dire que la main de Dieu est toujours tendue, tout comme sa miséricorde est toujours donnée, mais il s'agit de l'accueillir, il s'agit de venir à lui dans l'humilité, la contrition, la conversion du cœur. Et ça, les moines n'ont pas cessé de le dire et d'essayer de le vivre, parce que bien sûr, un présent, le présent, dans le mot présent, il y a les deux termes. Il y a à la fois c'est aujourd'hui et il y a aussi c'est un cadeau. Mais un cadeau non déballé, c'est encore un cadeau. Voilà. Donc la fête de Noël, c'est très bien qu'on se fasse des cadeaux, mais justement, ça doit nous rappeler aussi que le cadeau de Dieu, il ne faut pas le laisser au pied du sapin.
Alors, Marie-Aimée Manchon, vous enseignez également la liturgie, je crois, au Collège des Bernardins. Vous, Moniale, c'est intéressant, une philosophe et une femme qui enseigne la liturgie. Et vous insistez sur cette dimension-là aussi dans votre méditation sur Noël, sur aussi redonner une place à cette liturgie, peut-être prendre bien conscience du sens que cela peut avoir, en évoquant cette richesse aussi de la tradition. Votre thèse, je crois, aussi de doctorat, porte sur la question de la liturgie.
Alors je suis en train de faire des recherches là, sur la question de la liturgie et l'entrée même du mot liturgie en philosophie qu'on retrouve à partir d'un philosophe juif qui s'appelle Franz Rosenzweig, début du XXe siècle, dans les années 20, dans un ouvrage un peu compliqué mais très beau qui s'appelle L'étoile de la rédemption. Donc ça c'est un autre sujet, mais ce qui m'intéresse dans ce mot et dans la réalité qu'est la liturgie, c'est que nous sommes des êtres coram Deo, nous sommes des êtres devant Dieu, et le Seigneur vient prendre corps, enfin là je parle en tant que chrétienne bien sûr, vient prendre corps à Noël pour que nos corps deviennent des temples en fait. Des vrais temples, et ce ne soient plus des temples désaffectés, mais soient des temples où une liturgie peut se vivre. Et cette liturgie, c'est celle de la charité, en fait, entre nous et en nous. Et je pense que c'est vraiment ça, le message de Noël dont je voulais parler ici. C'est grâce à l'incarnation, de pouvoir grandir en charité. Et bien sûr, la liturgie, notamment pour moi catholique, la liturgie eucharistique est vraiment un Noël continué, mais qui va permettre de grandir et de faire se déployer, de faire rayonner cette charité qu'on accueille dans la nuit de Noël, dans la grotte.
Vous évoquez cette tradition aussi catholique, hein, de la messe de minuit, de la messe d'aurore, de la messe solennelle de Noël, donc ce temps de la communion et de la présence. Alors je vous remercie infiniment, Marie-Aimée Manchon, de nous avoir conduits dans ces trois méditations de l'Avent autour de votre dernier ouvrage paru aux éditions du Cerf, Maranatha. Je vous souhaite une belle fête de Noël à vous, sœur Marie-Aimée, à toutes les moniales aussi des fraternités monastiques de Jérusalem, et à nos auditeurs, donc une belle fête de Noël. Je remercie Pierre-Henri Paget qui est auprès de nous aujourd'hui.
Merci, joyeux Noël à vous aussi.